si ce genre de choses arrive. Et nous sommes dans une nouvelle série. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qui est en jeu avec mon steak ?» Les lois sacrées est vrai. Alors qu'on va continuer avec cette série, on va reprendre notre podcast. On va parler à propos de textes qui ont été enseignés. Vous pouvez envoyer vos questions à propos de la. Vous pouvez scanner le QR code que vous voyez ou bien vous pouvez envoyer vos questions sur notre site web. Nous voudrions interagir avec vous de cette façon-là. Commençons, reprenons cela cette semaine. Lisons le texte d'aujourd'hui. C'est 1 Corinthiens 8, 1 à 6, chapitre 8, 1 à 6. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Prions, Père, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions parce que tu t'es révélé à nous. Merci de t'être révélé à nous à travers Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour le salut. Merci parce que tu es ressuscité de la mort et assis aujourd'hui à la droite du Père et que tu as envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en nous et être au milieu de nous. Et que ton esprit est là pour nous enseigner. Et nous demandons que tu disposes nos cœurs, nos esprits, tu ouvres nos yeux, nos oreilles, que nous puissions entendre, voir et comprendre. Pas seulement comprendre, que nous puissions vivre ces paroles pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Imaginez quelqu'un venant pour la première fois dans notre église et il vient d'un endroit du monde où il n'y a qu'un seul groupe ethnique parlant une seule langage. Imaginez quelque chose de pareil. Cette personne poserait probablement la question comment cela est-il arrivé? Pour aider cette personne à comprendre, il faudrait donner le contexte. L'histoire et les circonstances qui ont créé une ville multiculturelle avec une famille d'églises interculturelles. On parlerait de l'histoire, de l'exploration, les premiers établissements d'étrangers à partir de 19e siècle et les vagues d'immigration au cours des siècles passés. Et cette personne viendra à comprendre pourquoi le Willingdon est composé de gens venant de partout au monde. Quand nous lisons 1 Corinthiens 8, nous demandons quel contexte aurait poussé une église de Corinthe à écrire, à poser une question à Paul au sujet de nourriture offerte aux idoles. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? OK, voici le contexte. Marchons quelques minutes dans les rues de Corinthe. Corinthe était une ville prospère située sur une étroite bande de la terre entre la mer Égée et la Méditerranée occidentale. Beaucoup de cultures et de religions se mélangeaient dans cette colonie romaine. Les gens venaient de l'Est et de l'Ouest en raison de son emplacement stratégique. Et avec de nombreux peuples, influence venait de nombreux dieux et déesses, leurs temples parsemaient les paysages notamment. Il y avait, vous pouvez toujours voir le temple, celui-ci est le temple d'Apollon. Encore des piliers qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une certaine liste. Il y avait Aphrodite. Il y avait Apollon, dieu de la musique, des arts et des prophéties. Asclepios, dieu de guérison. Poséidon, dieu de la mer. Athéna, Hermès, Zeus, Héra, le soleil, la mer, et beaucoup plus. Alors, ça c'est le monde de la Corinthe. Chaque domaine de la vie était couvert par un dieu ou une déesse. Peut-être si nous vivions dans cette époque, peut-être venez-vous d'un notre ministère d'adoration allait adorer Apollon, le dieu de la musique. Et c'est la façon comment cela fonctionnait. Il y avait différents dieux qui couvraient différents domaines de la vie et pouvaient avoir assez de dieux qui allaient couvrir tous les domaines de la vie. Vous pourriez venir d'un endroit où il y a beaucoup de dieux, ou peut-être vous venez d'une religion où il y a des dieux qui couvrent différents aspects de la vie. À Corinthe, cette chose était intégrée dans la vie de chaque jour. Affaires gouvernementales, les domaines civiques, les corporations professionnelles et les clubs sociaux. Et participer à ces événements était censé maintenir la cohésion et la prospérité de la ville. Et tout le monde était... Et si vous refusiez de participer, vous étiez isolé et couvert de honte. Et vous étiez marginalisé. Ça, c'était le dilemme que le chrétien auquel faisait face. Et ce n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, mais on a quelque chose de semblable à ce que nous avons aujourd'hui au Canada, autour de la pensée des groupes concernant l'idéologie. Il y a par exemple sur le changement climatique, la politique DEI. Et si vous remettez en question ce que pense la majorité, vous pouvez être annulé, vous pouvez être marginalisé. Alors, l'Église de Corinthe faisait face à cette réalité. Alors, l'Église de Corinthe fut fondée par Paul au début des années 50, après Jésus-Christ, avec ses amis fabricants de tentes, Priscille et Aquila. Selon les noms des personnes associées à l'Église, la famille, cette Église était interculturelle. Parmi ses membres, on trouvait les riches, les pauvres, des affranchis et des esclaves. Paul écrit cette lettre à partir d'Éphèse vers 53-55 après Jésus-Christ. Et quand vous lisez cette lettre, il est entendu dire que l'Église était troublée par des divisions internes, l'immoralité sexuelle, le snobisme, les mariages, le divorce, la participation aux religions païennes. Et il craint qu'elle ne s'accommode à la culture environnante et qu'elle devienne plus semblable à Corinthe qu'à Jésus. Alors, au chapitre 7, le dernier chapitre que nous avons étudié avant l'été, et Paul absorbe les questions du mariage, du divorce et du célibat. Si vous avez manqué les sermons les prédications basées sur ces chapitres 1 à 7, vous pouvez vous retrouver sur le site web de notre Église. Au chapitre 8, Paul commence à aborder une autre question sur laquelle l'Église était probablement divisée. Chapitre 8, verset 1, « Concernant donc les viandes offertes aux idoles, quelle est l'importance ?» Encore une fois, le contexte est important. Les adorateurs païens à Corinthe offraient de sacrifices d'animaux aux dieux lors de leurs rituels sacrés. Une partie de l'animal est donnée aux dieux, et en faisant cela, dans cet acte de culte, en tant qu'adorateurs, ils exprimaient une dévotion et créaient un lien avec les dieux. Cependant, une grande partie de l'animal reste et peut être consommée. Ces autres parties sont mangées en l'honneur de Dieu dans la salle de banquet du temple. La salle de banquet du temple est utilisée pour les repas privés, les fonctions des corporations et les réunions de clubs. Dans l'ensemble, les païens devenus croyants à Corinthe avaient probablement participé à de tels repas toute leur vie. C'était le restaurant de base dans l'Antiquité et toutes sortes d'occasions étaient célébrées de cette manière. Le commentateur Gordon Fee qui a parlé de ça dans... Et donc, si vous étiez, selon la position de la société, d'une certaine façon ou d'une autre, vous alliez passer par cet endroit. Lors de ces banquets, les dieux du temple, et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Pouvons-nous aller à un dîner dans la salle de banquet du temple? C'est de poser les chrétiens. Que faire si notre corporation ou notre club social s'est réuni dans un temple païen? Si nous n'y allons pas, on va être marginalisés. Que faire si notre corporation ou notre club social se rencontre là-bas régulièrement? Qu'adviendrait-il de notre commerce? Pas seulement ça, la viande excédentaire des temples païens était envoyée à la boucherie du marché et vendue au public. Un autre ensemble de questions surgit. Et si la viande est vendue au marché et que nous ne savons pas qu'elle a été consacrée, qu'allons-nous faire? Et si elle est consommée dans une maison, et qu'en serait-il si vous êtes à la maison, il n'y a pas de caméra, personne ne sait. Et pour certains d'entre vous venant d'autres parties du monde, ces questions ont peut-être été très réelles où vous viviez. Mais ce n'est pas étrange où les aliments sont offerts aux idoles, où la majorité adore les idoles. C'est une chose réelle. Mais au Canada, on a d'autres questions. Si quelqu'un souffre, toute vie a-t-elle une valeur intrinsèque? Si quelqu'un souffre, est-il acceptable de demander l'aide médicale à mourir? Jésus est-il le seul chemin vers le salut? Que faire si les gens veulent faire affaire avec vous dans un cadre où vous savez qu'il y a autre des excès de boissons? Chaque question de la vie en profondeur est enracinée dans ce que nous croyons. Chaque question de la vie est en profondeur et enracinée dans ce que nous croyons. C'est fondamental, c'est quelque chose de théologique. Alors, un Corinthien pourrait dire quelque chose comme ceci. Qu'est-ce qui est en jeu avec mon steak? Les dieux ne sont vivants que dans l'imagination de leurs adorateurs. Donc, puisque je sais qu'ils n'existent même pas, je peux manger de la viande dans le temple, dans n'importe quel temple. Tout cela est une arnaque de toute façon. La nourriture qui est sacrifiée à quelque chose qui n'existe pas ne peut me faire du mal. Et Paul dirait, pas si vite, ne sois pas naïf. La naïveté spirituelle peut vraiment nous blesser. La naïveté spirituelle peut vraiment nous blesser. Quelle est la vision biblique d'une idole d'une autre religion? Il y a beaucoup d'écritures à propos de cela. Les écritures nous parlent de cela. Ce sont des créations humaines, mais tu les adores. Les... Ce sont les créations humaines, mais si tu les adores, tu deviendras comme elles. Les idoles sont des images des dieux qui n'existent pas, ça c'est vrai. Mais il y a une réalité spirituelle à l'œuvre à travers ces idoles. Paul le dirait clairement dans 1 Corinthiens 10, 20, « Non, j'ai dit que ce que les païens sacrifient, ils l'offrent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Alors, dès les dieux vivants et démoniaques sont en opposition, les dieux vivants. Quand tu deviens chrétien, tu te détournes des idoles pour te tourner vers le Dieu vivant. Ça, c'est la conversion. Alors, les idoles, selon les paroles, représentent une réalité bien plus sombre que ce que certains pensaient dans l'esprit d'un adorateur. Et tu ne peux pas ignorer cette réalité et éviter le problème avec ta... Et j'ai un esprit, j'ai une... en disant que tu as une connaissance spirituelle supérieure. L'adoration dans un temple païen est un événement religieux. Et il y a des qui t'ouvrent à l'influence des démons. Alors ne sois pas naïf. Si tu as grandi avec des idoles, et peut-être que tu en as encore chez toi, je te recommanderais de te détourner de cela. Et peut-être tu devrais demander de l'aide, un conseil à un pasteur ou le responsable de ton groupe de vie. Souvent, l'idole représente ton histoire familiale ou la culture. Et il y a une raison pour laquelle nous continuons à les garder. Nous devrions savoir que Dieu nous demande, d'où que nous venions, de nous détourner de nos idoles et de nous tourner vers lui afin que nous marchions l'adorer. Et si cela est ta réalité, cherche un conseil pastoral. Pour certains d'entre nous, toute cette conversation sur l'idolâtrie peut sembler étrangère. Nous n'allons pas dans d'autres temples religieux. Nous n'avons pas d'idoles sur nos autels familiaux. Toute cette conversation concerne une autre culture. Et Paul dirait encore, ne sois pas naïf. Une idole est tout ce qui réside dans ton cœur, occupant une place que seul Dieu devrait occuper. Tim Keller écrit ceci, définit une idole comme tout ce qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu cherches pour donner, ce que seul Dieu peut donner. En d'autres termes, une idole capture tellement des affections, tes pensées, tes énergies, qu'elle devient plus essentielle pour toi que Dieu. Nous pouvons faire d'une bonne idole de n'importe quoi. L'argent, la carrière. Quand on s'adonne à l'argent, parce que nous pensons que l'argent va nous donner le statut, l'approbation sociale ou le contrôle et la vie dont on s'adonne à notre carrière parce que nous pensons que la carrière va nous donner le statut et l'approbation sociale. Nous nous adonnons aux relations parce que nous pensons que cette personne va nous aider à trouver l'accomplissement, le sens, la sécurité. Nous pouvons adorer, idolâtrer la famille pour la valeur personnelle, pour l'identité. Les équipes sportives, ça peut paraître ridicule, mais il y a des gens qui sont passionnés par rapport à leur équipe parce qu'ils trouvent leur identité en cela. Et ils pensent que leur succès dans la vie est lié au succès de leur équipe. Et si vous êtes un fan de Canuck, vous allez souffrir. Pour certains d'autres, c'est la doctrine. Leur doctrine théologique et leur identité. Ils utilisent leur doctrine pour contrôler les gens. Ça devient une idole. Ces idoles peuvent être si importantes dans nos vies que si nous les perdons, nous pouvons avoir l'impression que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Regardez seulement comment on répond quand on perd l'argent ou quand les relations familiales sont brisées. Alors, participer à ces événements religieux où aussi si nous adorons l'argent, le sport, quel qu'il soit, quel qu'il en soit, cette expérience, ce n'est pas spirituellement neutre. Alors, chacun d'entre nous, on devrait se poser la question, que cherchons-nous pour la vie, pour la sécurité, pour l'approbation, le sens de valeur ou la signification? Est-ce nos cœurs sont entièrement dévoués à Dieu ou sont-ils tournés vers les idoles? C'est une question importante. La naïveté spirituelle peut vraiment nous blesser. C'est... Deuxième point, notre connaissance spirituelle peut blesser les autres. Dans sa conversation avec les Corinthiens, Paul cherche il est en train de coter, il dit que nous tous avons la connaissance. Et verset 4, il dit, une idole n'a pas de véritable existence. Et puis il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Voyez-vous, la connaissance était une obsession corinthienne, c'était une idole. Et vous allez voir ces mots dans ces livres plus que dans tous les autres livres. Paul reconnaît déjà qu'ils connaissent quelque chose. Qu'ils sont, en tant que disciples de Jésus, il y a une connaissance commune qu'ils connaissent. Ils savent qu'ils sont venus de ténèbres et ils savent que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Ils le savent qu'en Christ, il y a l'Esprit et que tous ont accès, tous les chrétiens ont accès à la vérité. Ils savent que le mystère de la parole a été livré. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les autres dieux n'existent pas. Ils savent que les idoles n'existaient pas et qu'ils ont probablement rationalisé que ça devait être correct de marcher ces nourritures offertes aux idoles. Toutes ces choses basiques qu'ils connaissent, alors Paul va leur dire que la connaissance donne l'orgueil, mais la connaissance enfle d'orgueil, mais l'amour édifie. Premièrement, quelle que soit notre connaissance, est toujours partielle. Voilà ce que Paul écrit. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Alors ne présume pas savoir plus que tu ne sais. C'est si facile de penser que nous connaissons plus que nous de la réalité. Parfois nous pensons savoir plus que ce que nous savons réellement sur la politique, la science, la psychologie, les événements mondiaux, le sport, la théologie. Je parlais avec un pasteur qui dit à quelqu'un de mon église qui s'est présente dans ses réseaux sociaux, il s'identifie comme un théologien. Alors, si vous connaissez quelque chose à propos de quelque chose, vous allez vous rendre compte que c'est comment votre connaissance est limitée. Si nous savons quoi que ce soit, c'est par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai pleinement comme j'ai été pleinement connu. Et troisièmement, la connaissance spirituelle peut être mal utilisée. Si nous écrasons nos frères et sœurs avec notre connaissance et notre liberté, nous les détruisons. Le pasteur Vin en parlera davantage la semaine prochaine. La connaissance spirituelle est utilisée pour servir tes propres intérêts et dangereuse. La seule connaissance qui compte est celle centrée sur Jésus et qui s'exprime en aimant les autres. Et la seule connaissance qui compte est celle centrée sur Jésus et qui s'exprime en aimant les autres. Et l'amour est défini par le modèle et l'exemple de Jésus. Ce n'est pas la tolérance, ce n'est pas l'affirmation, c'est le modèle à suivre de Jésus. Au verset 3, Paul ajoute ceci. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il passe à une connaissance basée sur la religion. Plus important que notre connaissance de Dieu et la connaissance que Dieu a de nous, plus important que notre connaissance de Dieu est la connaissance que Dieu a pour nous. Dieu, c'est le plus important, c'est la connaissance de Dieu sur nous, la connaissance de Dieu de nous. Dieu nous a choisis. Il nous a aimés, il nous a appelés, rachetés. Il nous a délivrés, il nous a restaurés. Il nous comprend mieux que nous ne nous comprenions nous-mêmes, que nous nous comprenons nous-mêmes. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ses fils et ses filles. Il connaît par nos noms, par l'histoire, personnellement. Et cette connaissance de Dieu pour, de nous est plus importante que ce que nous connaissons de lui. Et si nous l'appartenons, lui qui nous connaît, nous lui connaît personnellement. Comment alors nous donnons-nous à d'autres idoles? Il y a aussi un lien intime entre le fait d'appartenir à Dieu et d'aimer Dieu et son prochain. Si nous appartenons à Dieu, il demeure en nous. Son esprit produit l'amour pour Dieu et pour les autres. Il nous inspire. L'amour de Dieu est plus central que l'amour que... C'est cela qui inspire les autres. Et Paul est... Remarquez, Paul, la connaissance nourrit l'ego. Paul dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Ça compte pour rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. La connaissance spirituelle fait grossir nos têtes. Le véritable amour fait grandir les autres. Le véritable amour fait grandir les autres. Alors, notre naïveté spirituelle peut vraiment nous blesser et notre connaissance spirituelle peut vraiment blesser les autres. Quelle est la solution? Être connu de Dieu et le connaître véritablement. Toute cette discussion autour des viandes offertes aux idoles pousse Paul à faire une déclaration théologique massive. Et je vais le répéter encore, ce que nous croyons compte vraiment. Celui en qui nous croyons détermine tout. Ainsi donc, pour ce qui est de manger des viandes offertes aux idoles, nous savons qu'une... idole n'a pas de véritable existence et qu'il n'y a de Dieu que le seul. Paul reprend le schéma, la déclaration centrale de foi juive en un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ce que tu es. Comment ce Dieu unique s'est-il révélé? Verset 5. Car bien qu'il y ait des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, le monde est rempli. Regardez à Corinthe, regardez partout et vous verrez cela. Et verset 6, il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur, Seigneur, par qui sont toutes les choses. Remarquez le parallélisme. Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, qui est la source de la création, l'origine ultime de toutes choses, et pour qui nous existons, but ultime de toute la création, nous existons pour sa gloire. Un seul Seigneur, titre utilisé par les Juifs pour Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu par qui toutes choses et toutes choses existent par Jésus, et par qui nous existons, nous parvenons au Père par Jésus, et nous sommes recréés ou rachetés par Jésus. C'est l'affirmation la plus extraordinaire de la divinité de Jésus-Christ dans toute l'Écriture, à l'exception de possible de Jean 1:1, et certainement la plus ancienne d'un point de vue historique, environ 20 ans après la résurrection de Jésus, que Paul avait écrit cela. Jésus n'est pas un autre petit Dieu, se présentant comme un rival de Dieu le Père. Il n'est pas le rival de Dieu. Il est un avec Dieu le Père. Il est le Seigneur. C'est un titre divin. Le commentateur biblique Andrew Wilson écrit « Voici Paul, un homme juif, citant le texte juif le plus central de tous et y insérant Jésus en plein milieu. Il est difficile d'imaginer une déclaration plus dramatique de la suprématie, de la transcendance et de la divinité de Jésus-Christ ou une raison plus convaincante de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Que signifie la confession de Paul pour nous ici? A. Jésus-Christ le Seigneur est un avec Dieu le Père. B. Dieu le Père et Dieu le Fils ont créé toutes choses. C'est la confession d'un seul Dieu et d'un seul Seigneur exige une loyauté exclusive. Quand nous confessons notre allégeance à Dieu le Père et à Dieu, on ne parle pas du Saint-Esprit aujourd'hui, mais on peut inclure le Saint-Esprit selon la parole. Mais quand nous adorons le Père, le Saint-Esprit et le Fils, nous, l'idolâtrie est écrasée dans nos cœurs. Ceux qui font cette confession de cœur appartiennent à Dieu. Ils sont une nouvelle famille, avec une nouvelle manière de se comporter dans le monde. Alors, c'est que nos confessions théologiques sont fondamentales. Si vous voudrez apprendre certaines, il y a une classe que vous voudriez prendre, ce serait la théologie chrétienne et la vie. Ça va être un cours qui va apprendre sur la confession, les confessions chrétiennes. La plus ancienne confession chrétienne dans l'Écriture se trouve, savez-vous? La plus ancienne confession chrétienne se trouvant dans l'Église se trouve dans 1 Corinthiens 15, 3, 4, la même lettre. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est daté de quelques années après la résurrection de Jésus. À certains moments, vous entendrez les gens dire que ces confessions, le Père, le Saint-Esprit, cela est venu quelques centaines d'années après Jésus. Mais celle-ci est vraiment vers le début. Voyez-vous ce que nous croyons compte vraiment. Au 4e siècle, vers les années 350, au 4e siècle, un ancien de l'Église d'Alexandrie nommé Arius, il enseignait que Jésus, le Fils, avait été créé par Dieu le Père. Avant sa création, Jésus n'existait pas, pas plus que le Saint-Esprit, seul Dieu le Père existait. Il disait aussi que Jésus n'était pas et n'est pas égal à Dieu le Père. Ils sont semblables par nature, mais non de la même nature. Jésus, étant inférieur, n'est pas pleinement Dieu. Et cet enseignement se retrouve dans des mouvements religieux contemporains aujourd'hui, tels que les Témoins de Jéhovah, l'Église de Jésus-Christ des Saints, des derniers jours, communément appelés les Mormons, l'Église unitarienne, les spiritismes, par exemple, que Jésus est l'esprit le plus haut ordre devenu humain. Ces choses continuent d'être enseignées. Elles sont, et des fois, les gens sont trompés par ces cultes et ces mouvements. En 325 après Jésus-Christ, l'Église s'est réunie et a répondu par une déclaration théologique qui est devenue ce que nous appelons aujourd'hui le credo de Nicée. Et elle est affirmée par l'Église dans le monde entier, par l'Église catholique, par les protestants, par les orthodoxes. Les orthodoxes ont changé seulement une phrase. Mais essentiellement, elle est confessée par l'Église chrétienne à travers le monde. Et je pense que nous ferons mieux de nous lever et de le lire ensemble. Pour ce que nous croyons et ce que nous confessons avec nos bouches est vraiment important. Levons-nous et je vais vous inviter à lire cette déclaration. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel, toutes choses visibles et invisibles. Et je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul qui est l'essence de Dieu. Dieu, lumière née des lumières, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, par qui toute chose a été faite et pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous. Sous Ponce Pilate, il a été souffert, a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures, et il est monté au ciel, et il est assis à la droite du Père. Et il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, le Seigneur et donateur de vie, qui procède du Père et du Fils, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et en l'Église, une sainte catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Juste une chose, quand nous avons parler de catholique, ça veut dire universel. Nous ne confessons pas le catholique comme étant la seule église ou ne faisons pas une allégeance à elle. Savez-vous, quand j'étais au Brésil, quand on a commencé, j'avais guidé quelqu'un à la confession et le monsieur m'a demandé « Tout a commencé avec toi ?» Et ça m'a fait rire. J'ai dit, non, ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé par le Dieu, par Dieu. Et le Saint-Esprit et Jésus-Christ, ça n'a pas commencé avec moi et ça n'a pas commencé avec quelqu'un ici. Nous faisons part de quelque chose qui est plus grand que aucun d'entre nous ne peut imaginer. Alors nous confessons notre foi au Père, au Saint-Esprit et au Fils. Alors, ayant confessé cela, honnêtement parlant, des fois, on peut se rendre compte que des fois, on se donne aux idoles. Des fois, quand je suis anxieux, je crains ou je me demande pourquoi. Mais souvent, c'est parce que je regarde ailleurs, cherche ce que je peux recevoir, que seulement de Dieu. Ma sécurité, ne dépend pas d'une personne. Donner mon cœur à quelque chose que je ne devrais pas. C'est vraiment important de revenir devant Dieu et se souvenir qui il est, et puis de réfléchir et se demander, est-ce que Seigneur, je ne donne pas mon cœur à quelque chose d'autre? Est-ce que je suis plus passionné d'une personne que je serai plus de toi? Alors, quand on regarde ces questions de réflexion qui sont devant vous, y a-t-il quelque chose qui capte tellement vos affections, vos pensées, vos énergies, qui vous est plus essentiel que Dieu? Méditez cela un moment. Y a-t-il quelque chose? Devez-vous ôter votre idole et réaffirmer votre allégeance au seul vrai Dieu? Votre dévotion, votre loyauté au Dieu, à Dieu? À certains moments, quand on pense à propos de nos idoles, et ça fait partie de notre vie, et des fois c'est difficile de laisser passer. Pensons-nous vraiment que nos vies dépendent de ces idoles? Souvenez-vous juste de la parole de Jésus, il dit « Venez vers moi, vous tous qui êtes chargés, vous trouverez votre repos. » Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug et apprenez de moi. Vous trouverez la paix de vos âmes. Mon joug est léger. Et cela est l'invitation de Jésus. La troisième question, votre connaissance spirituelle a-t-elle déjà étouffé l'amour? Si cette question était posée à moi, je dirais oui. Il y a des moments où je n'ai pas aimé les gens comme je devrais à cause de ma connaissance spirituelle. Que confessons-nous exactement à propos de Dieu et de Jésus? Que confessez-vous de tout votre cœur à propos de Dieu, le Père et de Jésus-Christ et le Fils de Jésus-Christ et le Saint-Esprit? Je vous encouragerai à prendre le screenshot de ces questions et de réfléchir pendant la semaine à propos. Que Dieu vous bénisse, passez une belle semaine.